sacrificios imaginables antes que consentir que triunfen las fuerzas que representan un pasado de opresión, un pasado de tiranía. Todos contra la reacción, todos contra el fascismo. Un solo frente, una sola unión, hombro con hombro, unidos todos hasta acabar con el enemigo. Abajo los generales faciosos.
Sur les chemins de l'exil. Une série documentaire de résonance sonore.
J'aime pas particulièrement ce village en fait. Je sais pas, il est triste. La maison d'Andorre, je suis à deux pas d'un chemin de randonnée qui mène ensuite à un pic, qui mène ensuite à un chemin de crête, qui mène ensuite à d'autres pics. C'est en fait cette maison, elle respire l'aventure. Et l'herbe, non, ça respire le vieux qui finit sa retraite et qui est très heureux de mourir dans ses draps. C'est triste et un peu mort. Ouais.
C'est
tout droit là. On passe l'église. Et puis c'est tout droit.
Ça fait combien de temps que tu habites ici en fait ?
10 ans. Théoriquement, ouais, j'ai passé la moitié de ma vie au Lerme.
Du coup, j'avais pris des photos de la maison qu'on a en Andorre. Parce que j'ai vraiment fouillé toutes les archives de mon téléphone. Donc ça doit dater de 2016, un truc comme ça. Et du coup, ouais, en fait, généralement, nous, on dort en haut, là. En fait, il y a une espèce de mezzanine. En dessous, là y a, derrière ce mur en bois, là, il y a deux chambres. Et dans ces deux chambres, il y a une chambre qui sert généralement un peu pour tout le monde. Et au fond, pour moi, c'est la chambre de mon grand-père, parce que c'est là qu'il dormait tout le temps. C'est une ancienne grange pour sécher le tabac qui a été rénovée en maison. Et à la base, ça servait de planque. Dans ma famille, il y avait beaucoup de... En fait, ma famille faisait partie d'un groupe d'anarchistes à l'époque de Franco. Et en fait, il y a une deuxième planque qui est en Espagne. Avant, quand ils ont acheté la maison et qu'ils l'ont rénovée pour en faire quelque chose, c'était pratique parce que juste derrière, en fait, quand on remonte cette montagne, t'as ce qu'on appelle le chemin des contrebandiers. Et c'est les gens qui font passer de l'Andorre à la France des paquets de tabac pour éviter la douane. Du coup, c'est des chemins planqués dans la montagne qui permettent de facilement traverser la frontière. Ce qui fait que ça leur faisait un endroit rapide pour aller se planquer si jamais ils étaient trop recherchés en France. Je suis un fanat de montagne, de cinéma.
Et tu te rappelles quand t'as eu ton premier appareil photo ?
C'était celui-là, le Coolpix, j'avais quoi, 7-8 ans. C'était un appareil photo à pile. Il y avait une carte SD et c'était mon grand-père qui me l'avait offert parce que j'aimais déjà la photo quand j'étais petit. C'était grave cool parce que du coup, j'ai pu faire mes premières photos, je prenais tout en photo. Et j'avais commencé déjà petit à faire des films en stop motion avec mes jouets. Mon grand-père, lui, est né en France, mais son père, à lui, est né en Italie. Et en fait, c'était la grande exode des Italiens à cette époque-là, pour fuir, le fascisme en Italie. En fait, c'est assez compliqué, parce que mon grand-père, il est mort quand j'avais 10-11 ans. Donc, quand j'étais petit, forcément, il m'a pas parlé de tout ça, parce qu'on parle pas de ça à un enfant, quoi. Et toutes les histoires que j'ai, c'est ce que j'ai entendu de ma mère, ou alors de ma grand-mère. En fait, j'ai beaucoup plus d'histoires qui concernent ma grand-mère, parce que du coup, elle est toujours vivante et elle peut me raconter, que mon grand-père, en fait, en réalité. Une qui me fait particulièrement rire aujourd'hui, c'est un pont qui reliait l'Andorre à la France. Et je sais pas si vous êtes déjà allé au Pas de la Case ou en Andorre. il y a une route où c'est vraiment enclavé tout au fond d'une vallée. Et souvent, on traverse des ponts parce qu'il n'y a pas d'autre route. Et on doit traverser une rivière. Et ils avaient fait sauter ce pont pour bloquer le trafic. Parce que du coup, ça faisait une zone stratégique qui saute. Parce qu'il n'y avait que cette route. En fait, elle avait raconté à ma sœur, à la base où ils étaient en train de monter au pas de la case, il y avait ma sœur et des amis à elle dans la voiture et ma grand-mère. Et à un moment, elle passe devant ce pont et elle commence à réfléchir. Elle fait « Ah, mais oui, mais c'était ce pont qu'on avait fait sauter à l'époque. » Et du coup, il y a ma sœur qui explose de rire et il y a ses amis qui étaient derrière dans la voiture qui disent « Pardon. » Et voilà, cette anecdote m'a toujours fait rire. Il y a eu une très grosse affaire en France. Comme le pont dont j'ai parlé qu'ils ont fait sauter était situé en France, c'est la route qui mène en Andorre, mais c'est un pont français. Et ils faisaient aussi des actions en France, des actions de résistance civile, en fait. Comme le gouvernement français ne faisait aucune action contre Franco et même était, entre parenthèses, complice parce qu'il coupait pas les ponts économiques avec eux, et ben forcément, ils faisaient aussi des actions de résistance en France. Et notamment, je crois qu'ils sont fait arrêter pour... parce qu'il y a eu la grosse histoire de l'enlèvement du banquier personnel de Franco. Ils l'ont enlevé, je crois qu'ils l'ont enlevé en Espagne, puis ils l'ont ramené en France, il était planqué à Paris, et il y avait une équipe qui était chargée de la rançon et des négociations, et du coup elle était impliquée dans ce coup-là, et je crois que c'est pour ça qu'elle s'est fait arrêter.
Je peux être n'importe où, puisque le seul endroit où je me considère chez moi, c'est soit l'Andorre, soit ma chambre. Je me sens un peu emprisonné partout, en fait. En fait, soit je m'échappe en allant en montagne et en faisant une aventure, soit je m'échappe mentalement, donc ma chambre, c'est là où je m'échappe mentalement. C'est ma grotte, ma chambre. D'habitude, en fait, je suis très, très méticuleux. Une pièce de vie commune, j'ai pour habitude de la laisser exactement dans le même état. Si jamais je bouge un truc, je vais le rebouger pour qu'il soit exactement au même endroit que quand je suis parti. Par contre, ma chambre, c'est un bordel sans nom. C'est la pièce où je vis, donc forcément, elle vit avec moi, en fait. Depuis que je suis petit, en fait, j'ai tendance à m'échapper dans un monde imaginaire. Et du coup, il faut que je lui donne vie. Donc je pense que ça vient de là. C'est cette envie de donner vie à ce monde imaginaire que je me construis en vivant de vraies aventures, en fait, qui me donne envie, en fait, d'en vivre de vraies, quoi.
De cause à effet, on est tous très engagés à gauche dans cette famille. Mais ma mère, en fait, elle a beaucoup souffert de cet engagement politique qu'ils avaient, parce que notamment ma grand-mère qui a fait des séjours en prison à cause de ça, elle a été arrêtée plusieurs fois, et donc déjà ma mère, c'est pour ça qu'elle aime pas du tout les policiers, parce que quand elle était petite, il y a eu une histoire où il y avait un policier qui lui faisait un sale tabassage mental, en disant « oui, tu reverras jamais ta mère » et compagnie, quand il a arrêté, donc ça a laissé un bon petit traumatisme. Comme ma mère a beaucoup souffert de cet engagement, en fait, elle essaie d'être, j'ai l'impression qu'elle essaie d'être assez détachée de ça. Et ma sœur et moi, notamment, elle nous a jamais orientés dans ce sens-là, parce que j'ai compris il y a pas longtemps qu'elle essaie de nous protéger de ça, qu'on soit pas, en fait, dans la même situation qu'elle a été. Après, moi, j'ai un avis assez neutre sur la politique. Forcément, j'ai des idées qui sont bien ancrées à gauche. Mais j'ai jamais été militant et j'ai même pas voté hier. Mais après, ma sœur, elle est beaucoup plus engagée, mais elle est beaucoup plus engagée communiste, ma sœur. En fait, j'ai un rapport assez étrange d'un côté où je me sens obligé de continuer, entre parenthèses, cette lutte. et d'un autre côté où je me dis que j'ai d'autres choses à faire. Après, ma grand-mère, elle veut pas que je m'engage comme eux ils sont engagés à l'époque, mais elle voudrait que je sois plus actif politiquement, ça c'est un fait. Après, ma mère, sa philosophie, c'est que tant qu'on est heureux, ma soeur et moi, peu importe. Hein. Bon, si on commence à lui dire qu'on veut voter FN, on risque d'avoir des problèmes, mais... mais voilà. C'est pas vraiment un poids, c'est une fierté. Hein. C'est vraiment une très grosse fierté, parce que c'est pas anodin comme histoire. Et surtout, ben, c'est beau, ce qu'ils ont fait. Mais d'un autre côté, j'en suis pas vraiment héritier, moi, aujourd'hui. C'est-à-dire que je connais les histoires, mais je... Moi-même, j'ai jamais été vraiment impliqué là-dedans. Donc c'est une histoire dont je suis fier, mais dont je suis pas vraiment acteur.
En Andorre, j'ai déjà parlé du bruit du torrent en bas, le bruit de la cheminée, en montagne, le bruit du vent en fait. J'aime beaucoup ça, le bruit des ruisseaux. Et après aussi, au contraire du bruit, le silence de la neige. Je sais pas si vous êtes déjà retrouvé dans une étendue extrêmement enneigée, mais la neige, en fait, elle aspire le son. Et du coup, dès que tu passes un col, généralement, si t'as pas de vent, que t'arrêtes de marcher, donc t'arrêtes de faire du bruit en marchant, et que t'arrêtes de faire le moindre bruit, d'un coup, t'as une espèce de chape de plomb qui te tombe dessus, et t'as un silence parfait. Et c'est à la fois très satisfaisant et un peu angoissant.
Vraiment, c'est mon lieu de repos et mon lieu de... C'est vraiment mon chez-moi, en fait, que je considère vraiment comme mon chez-moi. C'est-à-dire que n'importe où dans le monde où j'aurai mon propre appartement ou quoi que ce sera juste l'endroit où je loge, mon chez-moi, c'est l'Andorre. C'est vraiment là où j'y vais depuis que je suis petit, tous les souvenirs que j'ai avec mon grand-père, tous les souvenirs de montagne. Je sais pas, juste je m'y sens bien en fait, il y a tout qui me plaît là-bas. En fait, c'est très dur en plus de la prendre en photo, parce que quand on la prend en photo, on n'a pas toute cette maison. Parce que cette maison, elle a une odeur, elle a ses bruits particuliers, en bas dans la vallée, il y a un torrent qui coule, et du coup, il y a toujours cette espèce de bruit de fond de torrent. Il y a souvent le crépitement de la cheminée, il y a l'odeur du vieux bois et des vieilles pierres de la maison, enfin c'est un tout cette maison pour moi. Et du coup, oui, aussi, j'ai... À vrai dire, c'est surtout beaucoup à cause de mon grand-père, parce que c'est avec lui que j'allais là-bas. Et quand j'étais petit, j'avais pas vraiment de figure paternelle, parce que mon père... J'ai une histoire compliquée avec mon père, en fait. Et du coup, je pense que mon grand-père a servi de figure paternelle, et du coup, j'ai beaucoup de beaux souvenirs avec lui, et c'est pour ça que j'aime autant cette maison, en fait.
Qu'est-ce que t'aimais chez ton grand-père ?
C'est compliqué à répondre parce que un peu tout en fait, il avait cette espèce de gentillesse affable. C'était pas ultra démonstratif, mais c'était ce petit sourire et ce petit câlin de temps à autre qui faisait que tu savais que voilà, ces petits surnoms, ils nous appelaient mes canetons, ma sœur et moi. Et dès qu'il y avait ma mère qui appelait pour demander des nouvelles parce qu'on partait en vacances avec lui, elle appelait maman canard. Et c'était la famille des canards. Et oui, en fait, c'est ça, c'est cette gentillesse qu'il avait, cette gentillesse, cette passion qu'il me transmettait de la montagne et des hauteurs, c'était tout ça, en fait. C'est la montagne et l'aventure, en fait, qu'il m'a transmis.
C'était Héritage de l'exil à travers les générations, une pièce sonore réalisée par Mathias Guilbault et Agnès Gontier.
Sur les chemins de l'exil, une série documentaire de résonance sonore. Retrouvez son podcast sur www.resonance-sonore.fr.